la console, Kelvin Farah.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 11 novembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, les titres. La justice angolaise condamne des dizaines d'officiers pour corruption. Scandale en Ouganda, des tests de grossesse demandés pour passer les examens de fin d'année dans une université privée. Au Sénégal, Reporters sans frontières et l'opposant Ousmane Sonko réclament la libération du journaliste Pape Ali Niang. En Tunisie, Rached Ghannouchi, le chef des NADA, laissé en liberté après son audition pour blanchiment d'argent. Le président américain Joe Biden, attendu à la COP27 ce vendredi en Égypte, entretient ensuite lundi à Bali en Indonésie, en marge du sommet du G20, avec son homologue chinois Xi Jinping. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. En Angola, un tribunal a condamné hier plusieurs dizaines d'anciens officiers de la garde présidentielle à des peines allant jusqu'à 14 ans de prison pour fraude et détournement de fonds. 49 personnes, dont des officiers du service de sécurité de l'ancien président José Eduardo dos Santos, ainsi que des employés de banque, ont été jugés au début du mois de juin. Eric Manirakiza.
Ils étaient accusés notamment de détournement de fonds, de fraude et d'abus de pouvoir. Plus de 200 personnes ont témoigné contre eux. Dans l'un des exemples de malversation cités par le tribunal, des centaines de soldats morts dans l'unité de la garde présidentielle étaient restés sur la liste de paye entre 2008 et 2018. Ces salaires versés ont causé au gouvernement un préjudice de quelque 38 milliards de kwanza, soit 77 millions de dollars. Certains officiers ont été accusés de s'être servis de sommes d'argent trouvées dans des boîtes et des valises par des procureurs angolais au début de l'année dernière. Les enquêteurs ont trouvé 4 millions de dollars et 391 000 euros en espèces dans deux propriétés de Luanda appartenant à un major de l'armée, Pedro Lusati. L'homme était également en possession de 30 montres d'une valeur de 600 000 dollars, a dit le juge. La défense a annoncé que les condamnés allaient faire appel. Le président João Lourenço, un ancien général, est arrivé au pouvoir en Angola en 2017 en promettant de lutter contre la corruption endémique qui a pris racine sous son prédécesseur José Eduardo dos Santos. Il a été réélu de justesse en août lors d'un scrutin qui a été contesté par l'UNITA, principal parti d'opposition. José Eduardo dos Santos, décédé en juillet, a été accusé d'avoir nommé sa famille et ses amis à des postes clés au cours de ses 38 ans de règne, laissant le pays en proie au népotisme et à la pauvreté.
En Ouganda, une université privée a fait scandale hier pour avoir demandé à certaines étudiantes des tests de grossesse pour pouvoir passer les examens de fin d'année, Michel Joseph.
Devant le tollé provoqué par cette directive qualifiée de discriminatoire et inacceptable, la Kampala International University a vite fait marche arrière en annulant la mesure. Un document interne de cette université privée demandait à toutes les futures infirmières et étudiantes sages-femmes de passer un test de grossesse sans lequel elles ne pourront faire les examens de fin d'année. La polémique est arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale où la présidente Anita Among a qualifié cette mesure de très malheureuse. Frank Kaharuza Mugisha, un des responsables du campus où se trouvent les écoles d'infirmières et de sages-femmes, a rapidement annulé la directive sans expliquer pourquoi elle avait été prise. La Kampala International University est un établissement sans but lucratif qui accueille plus de 1200 étudiants venus de tout le continent africain.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et Reporters sans frontières ont condamné hier la détention de Pape Ali Niang, un chroniqueur critique du pouvoir récemment arrêté et incarcéré, Claire Morin-Gibourg.
Ce qui arrive à Pape Ali Niang est une injustice. Ce journaliste s'est battu pour le Sénégal. La prison n'est pas sa place, a déclaré Ousmane Sonko à la presse accusant le pouvoir de chercher à, selon lui, éliminer les alerteurs du peuple. RSF réclame aussi la libération immédiate du journaliste. Patron du site Dakar Matin, Pape Alain Niang a été inculpé pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale et diffusion de fausses nouvelles. Connu pour ses chroniques, M. Niang a été arrêté pour des publications et inculpé. Reporters sans frontières a souligné sa surprise de voir un journaliste en prison dans un pays comme le Sénégal, considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique.
En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été laissé en liberté à l'issue de son audition jeudi par un magistrat du tribunal de Sousse dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et incitation à la violence. Entendu pendant plus de 14 heures par un juge d'instruction, M. Ghannouchi, bête noire du président Kais Saied, reste cependant poursuivi dans cette affaire, a précisé son avocat Sami Triki. Le magistrat n'a pas fixé la date de sa prochaine audition selon lui. M. Ghannouchi estime qu'il s'agit d'un dossier judiciaire vide et d'un problème inventé. Il dirigeait le Parlement gelé en juin 2021 avant sa dissolution fin mars par le président tunisien. Les autorités égyptiennes ont affirmé hier que le détenu politique égypto-britannique Alaa Abdel Fattah était en bonne santé sans convaincre sa famille, qui le dit en danger de mort après 7 mois de grève de la faim et continue de réclamer sa libération. Faisant écho à d'autres pays occidentaux, les États-Unis, dont le président Joe Biden doit rencontrer vendredi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi à la COP27 en Égypte, ont exprimé leur profonde inquiétude à propos d'Alaa Abdel Fattah et appelé à sa libération.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donc, le président américain Joe Biden sera en Égypte aujourd'hui. Il espère que sa rencontre, par ailleurs, que sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping permettra de définir un socle pour les relations entre les États-Unis et la Chine, mais il compte exprimer clairement les préoccupations de Washington. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La Maison-Blanche a annoncé que les deux hommes vont se rencontrer le 14 novembre en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Ce sera leur premier face-à-face depuis l'entrée en fonction du président américain. Les relations entre les deux premières puissances économiques mondiales sont tendues ces derniers mois après la visite en août de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan, que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire. Un responsable de l'administration américaine a déclaré que la rencontre ne vise pas à conclure des accords spécifiques et ne va pas déboucher sur un communiqué commun. Ce que je veux faire avec lui lorsque nous nous parlerons, c'est déterminer le type de ligne rouge que nous devons respecter, a déclaré mercredi le président Biden lors d'une conférence de presse à Washington. L'administration américaine s'attend aussi à ce que les deux dirigeants évoquent la guerre menée par la Russie en Ukraine et la Corée du Nord, a précisé la Maison-Blanche.
Ajoutons que le président Biden donc fait une brève escale ce vendredi à la COP27 pour réaffirmer les engagements climatiques des États-Unis sous pression pour augmenter leur aide aux pays pauvres en première ligne du dérèglement climatique. L'Ukraine a annoncé jeudi la reconquête d'une dizaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays, où l'armée russe a confirmé avoir entamé son repli pour occuper de meilleures positions. Un nouveau revers majeur pour le président russe Vladimir Poutine. Prenant le contre-pied de l'armée russe, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné dans la soirée « Ce n'est pas l'ennemi qui se retire, ce sont les Ukrainiens qui chassent l'occupant en payant le prix ». Peu de métros circulaient jeudi à Paris en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats pour des hausses de salaire. Dans un contexte de contestation grandissante en Europe, durement frappée par l'envolée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Et des millions de personnes ont vu leur trajet fortement perturbé jeudi par une nouvelle grève quasi totale du métro londonien au moment où les mouvements sociaux s'intensifient donc au Royaume-Uni et en Europe face à l'inflation. Ici aux États-Unis, l'inflation semble enfin ralentir, tombant en octobre au plus bas depuis janvier 2022, mais le président Biden a averti que le retour à un niveau normal prendra du temps. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement a confirmé le financement de la construction du corridor routier Bissau-Dakar pour plus de 100 millions de dollars pour la première phase du projet Farim-Tanaf-Sandiniri. Selon un communiqué, l'appui financier comprend un don de quelque 53 millions et un prêt de plus de 35 millions du Fonds africain de développement destiné au Sénégal et à la Guinée-Bissau. En Tunisie, l'Office des céréales a conclu un accord avec Intercéréales France pour importer 250 000 tonnes de blé. Les producteurs français n'avaient pas pu expédier de cargaison en Tunisie l'an dernier à cause d'une baisse de la récolte. L'Office des céréales tunisien a aussi paraphé un accord de coopération avec Intercéréales France et France Agrimaire pour le contrôle qualité et des formations sur le stockage et la conservation des denrées. En marge de la COP27 en Égypte, les places financières africaines ont obtenu 5 millions de dollars du Luxembourg pour la promotion de la finance durable. Une décision prise lors d'un panel organisé par la Bourse du Luxembourg et l'Institut mondial de la croissance verte. Le Luxembourg et l'Institut ont signé récemment un accord pour l'ouverture avant 2023 d'un bureau sur la finance durable au Grand-Duché.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Du roi Pelé à Zinedine Zidane, la Coupe du Monde a sacré d'immenses légendes du football avant de connaître sa 22e édition, le Mondial 2022 au Qatar.
Disons le 11 de légende, Idrissa.
On commence par Gordon Banks.
L'Anglais champion du monde en 1966 est surtout célèbre pour une parade miraculeuse face à Pelé en 1970, gravée dans l'histoire grâce à l'aphorisme du mythique attaquant brésilien. Aujourd'hui, j'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté.
Franz Beckenbauer.
Inventeur du poste de libéro, Kaiser Franz a laissé une des images immortelles de la Coupe du Monde en finissant le bras en écharpe le match du siècle. La demi-finale de 1970 perdue contre l'Italie, mais il a aussi levé le trophée 4 ans plus tard à domicile, quand le réalisme de la Mannschaft a brisé le romantisme des Pays-Bas de Johan Cruyff, puis comme sélectionneur en 1990.
Zinedine Zidane.
Entré dans l'histoire par un doublé sorti sur un carton rouge, Zizou partage à lui tout seul deux records. Il y a d'abord celui des buts en finale à égalité avec l'Anglais Geoff Hurst et les Brésiliens Vava et Pelé. Un doublé de la tête contre le Brésil en 1998 pour offrir aux Bleus leur première Coupe du Monde et une panenka sur penalty en 2006 contre Gianluigi Buffon.
Andrés Iniesta.
Ce milieu offensif a élevé la simplicité dans le football jusqu'au vertige artistique avec le FC Barcelone. Il symbolise l'Espagne du tiki-taka, ce tourbillon de passe qui a tout gagné entre 2008 et 2012. Iniesta marque le but de la victoire en finale contre les Pays-Bas en 2010.
Diego Maradona.
Personne autant que Diego en 1986 n'a écrasé un mondial de son talent et de sa personnalité. Au sommet de son art au Mexique, il guide l'Argentine jusqu'au triomphe contre l'Allemagne, récidive presque 4 ans plus tard en Italie. Mais l'Albiceleste s'incline en finale contre la Mannschaft. Il reste aussi dans l'histoire pour avoir marqué à 4 minutes d'intervalle le plus vilain et le plus beau but en Coupe du Monde, celui de la main de Dieu, puis son étourdissant slalom dans la défense anglaise.
Le Brésilien Pelé.
Le roi est le seul joueur 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde et de celle de 1958 où il avait 17 ans au chef d'œuvre de football offensif de 1970. Il a aussi gagné celle de 1962 même s'il a été blessé trop tôt dans ce tournoi. Pelé peut légitimement s'opposer comme le meilleur joueur de tous les temps.
Enfin, Ronaldo.
Au phénomène, a tout connu en Coupe du Monde, sacré sans jouer à 17 ans en 1994. Il est le héros malheureux de la finale suivante contre la France, où un malaise le matin du match le laissait diminuer puis vaincu. Le meilleur attaquant de son époque prend sa revanche en 2002, il survole le tournoi et termine meilleur buteur par un doublé en finale contre l'Allemagne.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposant tchadien Succès Masra a annoncé mercredi avoir saisi la Cour pénale internationale après la répression des manifestations du 20 octobre à N'Djamena et d'autres localités du pays. Il a commis un cabinet d'avocats français. Selon les autorités tchadiennes, les événements du 20 octobre ont fait une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Pour une réaction à la saisine de la CPI par l'opposant Succès Masra, Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena Ahmad Mahamad Hassan, professeur agrégé de droit, ancien ministre de la Justice.
Cette saisine est accueillie comme un soulagement contre l'impunité, parce que les parents des enfants massacrés recherchaient certains dans leur propre maison, même puisque les représailles continuent, les poursuites continuent, le harcèlement continue. C'est pour essayer de casser le silence de la communauté internationale et notamment de la France qui a adoubé le Conseil militaire de transition. Et donc cette saisine, c'est en fait une manière d'obliger la communauté internationale à casser le silence et l'impunité et le silence quand on tue au Tchad. Maintenant, la procédure de la Cour pénale internationale, elle est particulière. Il faudrait que le qualificatif de ces infractions entre dans le domaine de ses compétences. Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Et tout ça, c'est à vérifier. Maintenant, ça dépend des organes de la Cour pénale internationale, notamment le bureau du procureur, d'engager des poursuites et des enquêtes pour pouvoir vérifier si ça entre dans son champ de compétences ou pas.
En dehors des événements du 20 octobre, il y a eu également des situations à Abéché, Sandana, dans le sud et dans le Mayo-Kébi. Où en sont les enquêtes?
Il y a eu effectivement des tueries à Sandana au sud du Tchad. Il y a eu également à Danamadi. Il y a eu également à Abéché et à Faya. Le gouvernement a promis une enquête judiciaire, mais cette enquête, personne n'y croit. Personne n'y croit parce que les gens qui ont tiré sur les gens sont connus. Il n'y a jamais eu des individus arrêtés. On a pris le gouvernement, notamment à travers les autorités administratives du Moyen Chari, pour les tueries de Sandana. On avait dit qu'on avait arrêté les gens et qu'ils allaient être déférés devant la justice. Personne n'a été déféré jusqu'à nos jours. Je vous parlais tout à l'heure tantôt de l'impunité généralisée. La situation est extrêmement grave et déplorable compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'une dictature comme celle de Hissène Habré. Nous sommes dans un habillage juridique de la démocratie et de la liberté, mais en réalité le pouvoir est détenu par un clan armé qui prend en otage le peuple tchadien depuis des décennies. C'est là la situation. Et ce clan armé croit qu'il a gagné le pouvoir et le peuple tchadien et ses ressources par le prix du sang, et qu'il ne permet à personne de contester. Voilà la situation réelle aujourd'hui au Tchad.
Comment les autorités tchadiennes expliquent-elles le manque d'action au plan judiciaire concernant toutes ces exactions?
Non, elles ont dit que l'enquête continue et que personne ne les a interpellés jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont encore avec leurs larmes, que ce soit à Sandana, à Abéché, ou bien à Danamadi, ou à Faya. Les gens attendent justice, mais une justice d'abord. Il y a plusieurs mois où les magistrats sont entrés en grève. Il y a juste une semaine qu'ils viennent de reprendre. Et donc, il y a une justice qui traîne.
Ahmad Mahamad Hassan, professeur agrégé de droit, ancien ministre de la Justice.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, suite à la fermeture de la chaîne de télévision Djoliba TV, par la Haute Autorité de la Communication et de certaines atteintes à la liberté d'opinion et de culte, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali a publié un communiqué rappelant à l'État et aux citoyens le respect, la garantie et l'exercice des libertés individuelles et collectives. Modibo Dambélé a joint Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali.
Nous avons jugé nécessaire de publier ces communiqués par rapport à notre mission légale, d'une part, et par rapport à la situation sociopolitique actuelle du pays. Il se trouve que depuis un certain moment, nous assistons à certaines dérives. D'une part, dans le cadre des réseaux sociaux, des gens qui y profèrent des injures, toutes choses s'inscrivant en marge de la loi. D'autre part, nous avons assisté également à des menaces, de sérieuses menaces qui pèsent sur certaines libertés, certains droits civils et politiques. Donc nous avons jugé nécessaire de faire un communiqué, des rappels par rapport à la légalité de la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion qui sont consacrées par la loi fondamentale du Mali. Et d'autre part, nous avons également attiré l'attention des autorités compétentes sur le fait que la mise en œuvre de ces droits fondamentaux contribue à l'ancrage de la démocratie et à l'essor de l'état des droits. Alors,
cela arrive à un moment où Djeliba TV a été fermé pendant 2 mois par la Haute Autorité de la Communication. Il y a également brouille entre les 3 grandes religions du Mali, l'islam, le christianisme et les religions dites traditionnelles. Quelle lecture faites-vous de cette situation et que proposez-vous?
Effectivement, nous avons appris la sanction contre Djeliba TV, sanction qui nous paraît effectivement lourde parce que nous avons mené des enquêtes, des investigations auprès des spécialistes de la presse par rapport à l'analyse de l'élément audiovisuel de cette chaîne qui était incriminée. Il résulte que une ligne éditoriale telle que cela avait été publié n'enfreignait pas les règles fondamentales en matière d'éthique et de professionnalisme. Qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas un spécialiste, mais notre communiqué vise surtout à mettre en garde par rapport aux menaces et aux risques d'atteinte aux libertés d'opinion, d'expression et de presse. Ils sont, il faut les rappeler, des droits fondamentaux acquis au Mali au prix du sang. Si vous vous rappelez du temps de Moussa Traoré, des propos très durs envers le régime. Pour autant, ces journaux n'ont pas été fermés et ça a d'ailleurs contribué beaucoup à l'avènement de la démocratie. Donc si maintenant on tolère ou on encourage des atteintes ou des restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de presse, cela peut être analysé comme un recul.
C'était Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Au Nigeria, très peu de gens ont une assurance maladie selon le cabinet d'études Statista. La plupart des assurés sont des fonctionnaires, ce qui laisse la majorité des 200 millions de personnes sans assurance. SocoCare est une entreprise qui a démarré en 2019 et propose ce qu'elle appelle une assurance intégrée, permettant à certaines personnes de prendre une partie en espèces et une partie en assurance. Les détails dans ce reportage de Angela Ukomadou. Le récit est de Rosine Mounezero.
Jérôme Gouto souffrait d'un mal de ventre persistant, mais comme beaucoup de Nigérians, il n'a pas d'argent pour consulter un médecin. Il a alors entendu parler d'une idée originale pour obtenir une assurance maladie, collecter des déchets et obtenir en échange une couverture médicale. Après avoir livré une batterie de voitures usagées et des déchets plastiques, il a reçu une carte d'assurance maladie et a pu consulter un médecin. Ainsi, il a pu financer sa santé grâce à SocoCare, une compagnie spécialisée dans les technologies de la santé et qui offre une assurance médicale à faible coût aux Nigérians pauvres qui collectent des déchets recyclables comme prime.
Je ne suis pas venu avec un seul sou. C'est la vieille batterie et la voiture et les déchets plastiques que je leur ai donnés. Ils m'ont donné le formulaire pour venir ici et faire le bilan de santé. Et vous pouvez voir qu'ils m'ont donné les médicaments. Donc, je suis très heureux.
L'idée cherche à résoudre le double problème des déchets et du manque de soins de santé abordables au Nigeria. Les déchets, surtout plastiques, sont vendus à des entreprises de recyclage. Nonso Opurom est fondateur de Sosocare.
Nous nous sommes donc demandé comment utiliser un problème, celui du plastique qui pollue l'environnement, pour résoudre un autre problème, celui de l'accès à des soins de santé de qualité. Nous avons donc créé Sosocare pour permettre à des millions de personnes de financer leurs soins de santé, qu'elles aient ou non de l'argent liquide, en apportant des produits recyclables.
Joséphine Kido est bénéficiaire du projet Sosocare. Elle a une carte d'assurance maladie qu'elle a reçue après avoir collecté des plastiques. Puis elle en a parlé à ses amis qui en ont profité.
Quand ils se sont présentés à moi, j'étais intéressée et j'ai commencé à en parler à mes amis. Je ramasse dans les hôtels, parfois dans le parc ou le long de la rue pour rendre la rue propre. J'ai d'autres femmes que j'ai aussi amenées. Elles ont collecté, j'ai mesuré et je les ai payées. Elles les amènent à l'hôpital. Moi, j'ai pris ma carte. Mais je ne suis pas allée à l'hôpital.
Sosocare a démarré à la fin de l'année 2019, mais le coronavirus a freiné son expansion. Pour le moment, 7500 familles sont couvertes par ce projet. Sosocare opère dans 4 villes et s'étendra l'année prochaine, a déclaré Opurom, ajoutant qu'il recevait des demandes d'autres pour reproduire le projet. L'entreprise est sur le point de lancer un plan permettant aux abonnés de se rendre à la pharmacie la plus proche pour accéder à des tests plus simples, comme le contrôle de la malaria ou de la pression artérielle, offrant ainsi un accès aux abonnés qui vivent loin des hôpitaux.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les Américains attendent toujours les résultats définitifs des élections de mi-mandat qui sont tenues mardi. De l'issue finale de ces mi-termes dépendra le contrôle du Congrès par les républicains ou les démocrates. Que se passe-t-il si aucun des deux partis ne dispose d'une forte majorité à la Chambre des représentants tout comme au Sénat? Des éléments de réponse dans ce reportage de Catherine Gibson, récit de Jacques Aristide.
Le président américain Joe Biden parle déjà de victoire sur les sondages.
Alors que la presse et les experts prédisaient une vague rouge géante, cela ne s'est pas produit.
Le scrutin de mi-mandat a toujours été défavorable au parti du président au pouvoir durant cette période. Des candidats démocrates ont toutefois été réélus dans des endroits où la bataille était difficile, privant les républicains d'une majorité écrasante à la Chambre des représentants. Le républicain Kevin McCarthy est tout de même donné comme le prochain président de la Chambre.
Les républicains travailleront avec tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour donner cette nouvelle direction que les Américains ont exigée.
Garrett Martin est professeur à l'American University.
Cela va être très difficile pour Kevin McCarthy de pouvoir maintenir la cohésion, car il pourrait s'agir d'une très courte majorité. Cela nécessite une réelle compétence en toutes circonstances pour pouvoir la garder unie.
La victoire du démocrate John Fetterman en Pennsylvanie face au républicain Mehmet Oz donne l'espoir aux démocrates quant au possible maintien de leur majorité au Sénat.
Nous voulons protéger le droit des femmes de choisir, augmenter notre salaire minimum, lutter pour le droit syndical. Les soins de santé sont un droit humain fondamental.
Amy Desi de l'American University.
Le problème est que certaines des priorités que les gens ont confiées à ces candidats et sur lesquelles ils se sont présentés ne se traduiront pas dans la réalité.
Dans l'État de Géorgie, un second tour est prévu le 6 décembre prochain entre le sénateur démocrate sortant Raphaël Warnock et le candidat républicain Herschel Walker. Deux électrices partagent leur avis.
Je pense que nous devons juste revenir au centre. Nous sommes allés trop à gauche, trop loin, vers des intérêts spéciaux.
Il nous semble que dès que nous faisons quelque chose de vraiment bien, nous faisons volte-face et partons dans l'autre direction. Et c'est un sempiternel va-et-vient. Mais c'est ça la démocratie.
Pour l'heure, le pays est suspendu au rapport de force définitif qui s'installera au Congrès américain.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Ali Massi, à la console, Kelvin Fowler.